La WWDC approche, la grande conférence annuelle d'Apple dédiée aux développeurs aura lieu du 10 au 14 juin. Le grand keynote d'ouverture sera l'occasion de découvrir une fournée de nouveaux systèmes allant de macOS à iPadOS en passant par VisionOS. Les premières bêtas devraient être disponibles dans la foulée, permettant aux développeurs de jouer un peu avec tout cela. Si la WWDC 2023 était marquée par la présentation du Vision Pro, c'est l'IA qui devrait être à l'honneur cette année. On s'attend à du lourd de ce côté-là, ce qui devrait se traduire par des améliorations dans la plupart des apps de la pomme. Les rumeurs voudraient que l'on découvre un nouveau Siri, un Xcode amélioré ou encore une intégration de l'IA dans Pages ou Keynote. Que nous réserve Apple pour ces nouveaux systèmes? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nicolas, qui se prépare déjà mentalement à couvrir le Keynote pour lekeynote.fr. Salut Nicolas.
Salut tout le monde.
Et je suis également avec Stéphane qui a épluché toutes les rumeurs sur les nouveaux OS. Salut Stéphane.
Salut Félix, salut Nicolas et salut à tous.
Alors le keynote c'est bientôt, on s'attend à ce que ça soit une nouvelle fois une émission préenregistrée. Est-ce que vous préférez ce nouveau format? On pouvait se dire qu'Apple allait revenir à l'ancienne formule maintenant que le Covid est derrière nous, mais les derniers keynotes étaient quand même tous enregistrés.
Ah, moi je trouve ça un peu ridicule pour ceux qui font le déplacement à l'Apple Park,
ouais.
En fait de se retrouver devant un écran géant et une vidéo où ils voient défiler les nouveautés présentées. Alors c'est bien réalisé à chaque fois, et puis ça met en avant aussi les capacités de l'iPhone, puisque maintenant les dernières vidéos comme ça, présentation des nouveautés, sont réalisées à l'iPhone.
Mmh.
Donc c'est techniquement c'est bien fait, artistiquement c'est plutôt bien fait aussi,
ouais.
Mais bon, faire le déplacement pour voir une vidéo sur écran géant, c'est un peu risible,
et se taper des coups de soleil en plus,
oui.
Parce que c'est à l'extérieur,
il y a une bonne partie des spectateurs qui sont à l'extérieur, oui. D'autant plus que à l'Apple Park ils ont quand même construit un auditorium Steve Jobs Theater pour accueillir ces événements là pardon. Et puis bah, finalement ça se transforme un peu en séance de cinéma en plein air.
Ouais.
Après les vidéos préenregistrées, je trouve ça plutôt pas mal pour les petits keynotes comme on a eu pour les iPad Pro ou les Mac M3 dernièrement, mais on perd le côté spontané des présentations, et je trouve ça dommage pour ça.
Ouais.
Bon, je pense pas qu'on reviendra en arrière de toute manière, j'ai l'impression qu'ils aiment trop ce format où ils peuvent tout contrôler. C'est vrai que comme tu disais, il y avait le côté live qui pouvait être sympa. De notre point de vue, quand on rédigeait les suivis de keynote à l'ancienne, il y avait parfois des défilés de développeurs qui étaient un peu longs quand même, faut reconnaître. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, là, ça va très vite. Tout est très, très cadencé parce que bah, c'est comme une grosse pub, en fait, de une demi-heure à deux heures selon les cas.
Et on n'a pas, du coup, la réaction du public aussi. On ne peut pas voir s'il y a une nouveauté, effectivement, qui enthousiasme tout le monde. Tout le monde se met à crier, à courir partout, c'est incroyable. Au contraire, des fois, c'est arrivé aussi à l'annonce de prix ou de certaines choses où tu as un « Oh !» dans la salle, comme quoi « Ah ouais, quand même, là, Apple, il va un peu fort, quoi. » Et ça manque lors des vidéos préenregistrées.
Ouais, je me demandais à couvrir, ça doit être peut-être plus compliqué maintenant, vu que c'est beaucoup plus condensé. Parce que moi, j'ai jamais connu les keynotes avant le Covid, vu que je passais pas à MacG.
À couvrir sur lekeynote.fr, tu veux dire?
Oui, c'est ça. Enfin, même pour MacG, en général, j'ai l'impression que du coup, le rythme était plus relax, quoi.
Ça dépend. Dans les démos, généralement, c'est un peu plus relax. Et puis après, t'as certains passages sur les prix, sur les nouveautés techniques aussi, où ils te présentent des nouvelles choses, des nouvelles technologies, où là, en fait, faut vite comprendre de quoi il en résulte. Et ça, c'est toujours pas évident.
Pour ça, le passage à la vidéo est pas mal, je trouve. Les parties techniques, c'est souvent plus clair. Il y a plus de graphiques, ils s'embêtent, parce que quand c'est sur scène, ils montraient souvent les gens qui parlaient devant un écran. Et c'était un peu pénible, parce que des fois, nous, ce qui nous intéressait, c'était les infos sur l'écran qu'on voyait pas forcément bien. C'est vrai que maintenant, on est plus focus là-dessus, donc pour ça, c'est pas mal.
Ouais. Le keynote de l'année dernière était particulièrement garni avec l'annonce du Vision Pro, qui a fait un peu d'ombre au nouveau système même. Est-ce qu'Apple nous prépare du lourd pour cette année? Nicolas, ça va être une soirée chargée pour nous?
Bah, si on en croit les rumeurs, en effet, notamment les informations que Mark Gurman a remontées, il parle même, lui, d'une mise à jour historique, rien que ça. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. D'ailleurs, il a une explication un peu bizarre où il dit que Apple essaie de masquer le peu de nouveautés qu'il y aura sur l'iPhone 16, donc on parle de celui en septembre, et qui masquerait ça en mettant plein la vue avec iOS 18. Bon, je trouve ça un peu bizarre. À mon avis, là, c'est lui qui spécule et il n'y a pas forcément de base. Et puis surtout, comme tu l'as dit en introduction, ils n'ont pas besoin de compenser une quelconque faiblesse à venir. Ils sont un peu en retard, on va dire, sur l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est le truc du moment. On dit en retard, bon, Apple en fait depuis pas mal d'années en réalité. On ne parlait pas d'IA générative, on parlait de machine learning pendant longtemps, mais c'est un peu la même chose. Cela dit, on s'attend à voir beaucoup de neuf dans ce domaine en particulier, pour concurrencer très directement ce qui se passe ailleurs. Donc on pense à OpenAI et son ChatGPT, Google avec Gemini, tous ces concurrents qui ont intégré l'IA partout, et la voie semble être ouverte par Microsoft, qu'on a mis vraiment dans Windows, mais à plus savoir qu'en faire. Donc il y a de l'IA partout pour tout faire. On verra ce qu'Apple propose. À mon avis, ça va pas être la même idée, ça va pas être une profusion de fonctions dans tous les sens, avec un peu tout et rien. Je pense qu'ils vont se concentrer sur quelques domaines. Mais bon, dans tous les cas, à mon avis, on va avoir pas mal de choses à apprendre, à voir lundi prochain.
Les attentes sont grandes justement du côté de l'IA. C'est vrai que la vague ChatGPT, ça fait trembler le monde de la tech depuis plus d'un an et demi. Apple, ils ont confirmé avoir du neuf dans le domaine. Il faut dire qu'ils ont la pression à ce sujet. Qu'est-ce qu'on attend comme nouveauté au niveau de l'IA, Stéphane ?
Oula, alors beaucoup de choses. avant tout, on peut dire que Apple s'est pas tourné les pouces. On a vu ces derniers mois une dizaine d'articles scientifiques publiés par les chercheurs d'Apple. Ouais. Et il y en a sûrement beaucoup d'autres aussi, beaucoup d'autres travaux qu'on ne connaît pas encore. Et alors, je ne vais pas faire la liste complète des publications, mais je vais prendre deux exemples qui sont assez parlants, je trouve. Il y a par exemple Ferret, qui est un grand modèle de langage multimodal qui est capable d'analyser des images très précisément, et Matryoshka, un modèle qui est capable de générer, lui, des images. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent dans ces publications scientifiques-là, les chercheurs d'Apple comparent leurs travaux avec ceux d'OpenAI. Ils comparent et c'est souvent pour dire « oui, nous, on fait un peu mieux dans ce domaine particulier ». Donc, on voit qu'il y a vraiment une rivalité qui est en train de se construire et que les technologies d'OpenAI font souvent figure de référence. Alors donc maintenant, la question, c'est de savoir comment Apple va intégrer tout ça dans ses systèmes. Alors, on a plusieurs rumeurs qui sont assez précises, notamment du côté de Xcode. Xcode qui pourrait avoir un équivalent à Copilot. Copilot, donc, qui est le service de GitHub et donc de Microsoft, qui permet d'aider les développeurs à coder en leur suggérant des blocs de code. Ça va plus loin que l'autocomplétion habituelle. Et ça, c'est un outil qui est vraiment devenu presque indispensable pour certains développeurs, qui est très populaire. Sinon, pour iOS 18, par exemple, il pourrait y avoir dans Notes une fonction qui permettrait d'enregistrer des notes vocales. Donc ça, à la limite, c'est facile, on sait déjà faire. Mais en plus, qui pourrait retranscrire les notes vocales. Donc là, on pense à la technologie Whisper d'OpenAI qui est très efficace pour ça. Et en plus de ça, Notes pourrait également résumer les notes vocales. Sinon, du côté de la photo, il pourrait y avoir une gomme magique. Donc la gomme magique, c'est la fonction de Google qui permet d'effacer des éléments assez importants sur les photos. Parce que Apple a déjà un outil de retouche, mais c'est vraiment concentré pour les petits détails de la poussière ou des choses comme ça. Mais si on essaie d'effacer une personne complète, l'outil n'est pas adapté. Là, avec la gomme magique, en fait, l'outil est capable d'identifier le contenu qui a été effacé, et ensuite il y a une autre technologie qui permet de générer du contenu à la place et de bien combler le vide laissé. Et puis dans photo aussi, il pourrait y avoir un moteur de recherche qui serait amélioré avec un équivalent de Clip. Clip, c'est une technologie encore d'OpenAI qui permet de classifier les images de manière très précise. Et on peut faire des recherches très précises, pardon, en décrivant vraiment le contenu de l'image, et le moteur de recherche est capable d'identifier la photo correspondante. Et puis, alors pour terminer, mais on pourrait encore citer d'autres choses, mais pour terminer, Siri. Siri pourrait être amélioré avec une bonne dose d'intelligence artificielle. Alors, on ne sait pas exactement comment encore, parce qu'on sait que apparemment Apple a des négociations avec OpenAI et Microsoft, et Google pour utiliser d'une manière ou d'une autre ChatGPT ou Gemini dans iOS 18. Alors faudra voir comment c'est intégré. Est-ce que c'est une extension de Siri en quelque sorte, ou est-ce que c'est une app à part entière? A priori, ça serait plutôt une extension de Siri, un Siri qui serait boosté par les technos concurrentes. Mais ça, c'est pas très clair pour l'instant.
T'as oublié la fonction la plus importante, à mon avis.
Dis-moi.
On va pouvoir générer des emojis avec l'IA. Ah, oui, ça, quand même, franchement, moi, j'attendais ça.
Hein. Je l'avais noté, en plus, sur ma feuille, et je me suis dit, ah, c'est pas la peine. Mais bon, puisque tu tiens, tu fais bien le souligner.
Une des grosses interrogations par rapport à l'IA, c'est de savoir comment tout cela va tourner. ChatGPT se passe sur le nuage, mais on peut imaginer qu'Apple préférerait tout faire fonctionner localement. Nicolas, on a une idée de comment tout ça va fonctionner ?
Alors, ils aimeraient sans doute le faire localement, mais d'après ce qu'on sait, ça ne va pas être le cas, en tout cas pas entièrement, et pas au départ. Parce que c'est vrai qu'Apple aime bien faire les choses en local. Il y a plein d'arguments à faire tourner quoi que ce soit en local, mais typiquement l'intelligence artificielle. Bah, t'as pas besoin d'Internet déjà, c'est souvent plus rapide, et puis évidemment c'est mieux pour la confidentialité des données, puisqu'il n'y a pas besoin de gérer les données des utilisateurs sur des serveurs distants. Ouais. Cela dit, les grands modèles de langage qui servent de fondation à toutes les IA génératives, ces grands modèles ont besoin d'énormément de puissance de calcul. Même si Apple a fait des recherches, on a vu des papiers publiés comme ça, où ils essaient d'expliquer comment réduire les besoins pour les faire tourner en local. Bon, dans l'ensemble, à l'heure actuelle, on ne sait pas faire tourner ces modèles en local, en tout cas, pas si on veut un résultat aussi bon que ce qu'on peut faire avec des gros serveurs dans un data center. Et puis, de toute manière, même si Apple voulait le faire en local, ils ont un autre problème qui est qu'ils n'ont pas forcément les bons modèles, en tout cas des modèles aussi bien fichus que ceux de la concurrence. Bref, ils ont besoin de concurrents, et Stéphane a commencé à en parler tout à l'heure, mais les rumeurs disaient qu'ils ont parlé à la fois avec Google et OpenAI pour choisir, pour faire un partenariat dans iOS 18, en gros. Il y aurait une partie des fonctions qui seraient fournies par ChatGPT, ou en tout cas le moteur de ChatGPT, ou bien Gemini. D'après les dernières informations, ce serait plutôt ChatGPT qui a gagné, plutôt OpenAI. Et ils utiliseraient du coup leurs API, et puis surtout même leur serveur pour commencer, ce qui est assez inhabituel. En gros, ils utiliseraient... c'est comme si on avait un ChatGPT intégré à iOS. Ça sera pas exactement comme ça, mais ça ressemble à ça. Après, on sait aussi, il y a des rumeurs en tout cas qui disent qu'ils sont en train de travailler sur leur propre serveur, qu'ils construisent à partir de leurs puces, des puces qu'on trouve dans les Mac. Et grâce à ces serveurs, ils ambitionnent de créer une infrastructure dédiée à l'IA dans leur data center, mais avec donc leur matériel, et en quelque sorte réinternaliser ça. Donc on peut imaginer qu'à terme, ils se passent complètement d'OpenAI ou Google dans ce domaine et fassent tout dans le cloud. Et encore un peu plus loin, ou en parallèle même, en tout cas on peut penser que voilà, l'objectif ça reste de faire du local, et qu'ils vont faire tout pour augmenter le nombre de fonctions qui tournent localement. Et d'ailleurs, quelque chose d'assez qui serait assez Apple dans l'esprit, qui pourrait présenter la WWDC, c'est dire aux développeurs, voilà, on a des API pour l'IA, donc si tu veux transcrire du texte, c'est comme ça, si tu veux générer une image, c'est comme ça, enfin, on peut imaginer toutes les API comme ça. Et derrière, ils ne nous disent pas forcément si ça tourne sur le cloud ou en local, ils font en fait en fonction de la demande, en fonction de ce qui est possible, en fonction... Parce que c'est vrai que par exemple, si on dit qu'il y a des modèles qui tournent localement, ça ne sera pas le cas sur tous les iPhones. Et tous les iPads et tous les Mac, etc. Donc pour ceux qui ne sont pas capables de faire tourner localement, automatiquement l'API envoie vers le serveur. Pour ceux qui peuvent le faire tourner localement, après ça peut dépendre de la requête. Si c'est par exemple une transcription d'une phrase ou de 3 heures de texte, d'audio, c'est pas la même chose. Enfin voilà, on peut imaginer ce mélange, et l'avantage que ça apporterait, c'est que ça permettrait à Apple de, sans changer les API, donc sans dire aux développeurs de toucher quoi que ce soit à leur code, mais eux, en arrière, de dire bon ça maintenant c'est le faire en local, ça on le fait plutôt sur nos serveurs, ça on le fait plutôt chez OpenAI, on fait plutôt chez Google, enfin voilà, de gérer comme ça de manière assez transparente.
Ouais. L'IA c'est très bien, mais on va surtout découvrir les nouvelles versions d'iOS. Qu'est-ce qu'on attend pour iOS 18, Stéphane ?
Alors, hormis toutes les nouveautés liées à l'IA dont on a déjà parlé, il y aura quand même des choses différentes, notamment un écran d'accueil plus personnalisable. Alors, il y aura toujours le concept de grille d'icônes, mais avec la possibilité de mettre du vide entre les icônes. Vous pourriez, par exemple, espacer vos icônes, laisser deux cases vides entre deux icônes, ou bien mettre des icônes plus bas. On pouvait déjà... avec quelques astuces pour le faire avec des widgets, des choses comme ça, mais bon, là, ça serait possible nativement.
C'est comme ça sur Android déjà, non ?
Oui, c'est comme ça sur Android, ouais.
Ok.
Sur Android, tu peux même aussi, selon les surcouches, choisir le nombre d'icônes sur la grille.
D'accord.
Si tu veux des grosses icônes ou des petites, ça, on ne sait pas si ça arrivera sur iOS 18. Une autre nouveauté pour l'écran d'accueil, ça serait la possibilité de changer la couleur des icônes. Ouais. Alors, d'après ce qu'on comprend, ça pourrait être un peu ce que fait Android avec le design Material U depuis quelques années. C'est-à-dire que tu pourrais peut-être uniformiser toutes les icônes selon un thème pour qu'elles soient bien, bien assorties toutes ensemble. Mm. À part ça, il pourrait y avoir du nouveau pour Mail. Mais on ne sait pas trop quoi. pour Freeform aussi, avec des nouvelles fonctionnalités. Ouais. Pour Calendrier, avec l'intégration des rappels, ce qui serait quand même bien pratique. Mmh. Pour Réglage, il y aurait du nouveau avec une nouvelle organisation. Et ainsi, ça serait plus facile de s'y retrouver dans le réglage, ce qui serait bien. Et c'est surtout aussi réglage qui pourrait changer sur macOS 15. Et là, ça serait vraiment le bienvenu parce que sur macOS 15, actuellement, l'application réglage système n'est pas pratique du tout.
Ouais. Ils l'ont refaite il n'y a pas longtemps en plus.
Ils l'ont refaite il n'y a pas longtemps, mais ils ne l'ont pas refaite en mieux. Donc, ça ne sert à rien de refaire en moins bien. Ouais. Et puis, pour terminer avec iOS 18, le centre de contrôle pourrait également évoluer. Il y aurait un nouveau contrôle de la musique et puis des nouveaux contrôles domotique. On ne sait pas non plus exactement quel changement aura lieu, mais voilà, ces deux éléments-là pourraient changer. Mm. Et en fait, ce que je retiens aussi des nouveautés, enfin des rumeurs en tant que telles, c'est que généralement, c'est toujours Mark Gurman de Bloomberg qui révèle le plus de choses, mais là, cette année, c'est Apple Insider qui sort au compte-gouttes. Beaucoup d'éléments. On a l'impression qu'ils ont soit quelqu'un qui est très 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 bien renseigné, soit quasiment une build chez eux, quoi.
Ok. Depuis quelques années, iOS, c'est aussi une version spéciale iPad. Nicolas, tu attends quoi pour iPadOS 18? Les iPad Pro viennent de sortir avec une puce M4 qui semble assez sous-exploitée, donc les attentes sont grandes.
Franchement, rien.
En rien. Tout cas, iPadOS,
les
parfait.
Rumeurs, ouais, les rumeurs ne rendent pas vraiment plus optimistes. Hein. Ouais. C'est vrai que ça fait des années qu'on attend des choses pour iPadOS. Tous les ans, on se dit, tiens, c'est peut-être l'année où il va y avoir quelque chose qui va enfin changer la situation. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années qu'Apple ne sait pas trop quoi faire avec iPadOS. Pas l'impression que ça va changer cette année. Bon, il va y avoir plein de choses avec l'intelligence artificielle, on l'a déjà dit, plus tous les petits changements que Stéphane a évoqués dans le calendrier, mail, notes, tout ça, ouais. Qui seront aussi sur l'iPad, évidemment, parce que c'est la même base, hein, comme tu l'as dit. Mm. Donc tout ça, c'est très bien. Ah si, quand même, on parle d'une nouvelle application calculette. Enfin, d'une application calculette, pas nouvelle.
Nouvelle application.
Il n'y en avait pas. Oui. Il faut imaginer quand même, ça fait depuis 2010 qu'on a un iPad et il n'y avait toujours pas de calculette. Mm. Heureusement que ChatGPT va arriver pour nous aider à avoir une calculatrice sur iPad. Donc, plus sérieusement, iPadOS, il aurait bien besoin d'un investissement conséquent de la part d'Apple. Alors, l'idée, c'est, moi, je trouve, c'est pas forcément de lui apporter macOS, ça, on l'a déjà. Mm. Mais si ils veulent faire un système vraiment dédié aux tablettes, comme ils nous l'ont promis avec iPadOS, hein, c'était pour ça l'idée à la base de changer le nom, pas juste d'avoir quelque chose qui évolue pas, en fait, à côté d'iOS. Bref, s'ils veulent vraiment le faire, il faudrait qu'ils le prennent sérieusement le problème et qu'ils s'en occupent. Parce que le matériel est excellent, tu l'as rappelé, hein, les iPads, les nouveaux iPad Pro, c'est sans doute, c'est parmi les meilleurs produits que Cupertino a jamais produit, c'est le plus fin, etc. Enfin, il y a le meilleur processeur actuellement, la meilleure puce. Bref, c'est vraiment un matériel excellent, mais le logiciel, au mieux, c'est moyen. On est encore un peu trop dans le côté gros iPhone, mais en même temps, ils ont ajouté des bouts de Mac, c'est un peu bizarre. Et on a l'impression, peut-être ils se sont dit qu'on allait avoir le meilleur des deux mondes, mais c'est plutôt qu'on a l'impression d'avoir le pire des deux.
Ouais.
Et c'est vrai que, alors après, à titre personnel, moi j'ai voulu faire de l'iPad mon ordinateur secondaire. Mon idée, c'était de l'utiliser un peu comme un Mac portable, j'ai eu un Kintosh puis un Mac Studio. Et c'est vrai que j'ai fini par lâcher l'affaire assez récemment. Là, j'ai récupéré un autre Mac portable. Et mes problèmes, c'était pas le matériel qui est très bien, enfin qui convient parfaitement, mais c'est toujours été le logiciel. Donc j'espère qu'on sera surpris en juin, mais vraiment, on a l'impression que l'iPad, c'est un peu toujours le dernier le dernier système qu'Apple gère. Donc l'an dernier, il y a eu le Vision Pro qui a pris la place. Cette année, c'est plutôt l'IA. Donc voilà, l'iPad, il passe un peu après derrière. Et je pense que cette année, ça va être léger, quoi.
Ouais. Mais par rapport justement à ton expérience avec l'iPad comme Mac secondaire, qu'est-ce qui te bloquait? C'était le manque de liberté sur iPadOS ou autre chose?
C'était beaucoup raccourci, parce qu'il y a pas mal de choses qui demandent, enfin qui des automatisations. C'est-à-dire que non, c'est pas un raccourci en soi. C'est plus qu'effectivement, il y a des choses qu'on fait nous au quotidien qui peuvent être un peu compliquées sur un iPad, mais j'avais réussi à trouver des contournements au fil du temps avec notamment Raccourci. Mmh. Et le problème de Raccourci, c'est qu'ils le cassent tous les ans à peu près. Ils ont, depuis qu'Apple a acheté Raccourci, tous les ans, il y a des grosses mises à jour qui cassent des choses. Et donc, à chaque bêta, moi, j'étais en général bloqué sur des points, etc. Mmh. Ce qui est fatigant. Et en parallèle, le Mac, j'utilise encore des scripts en Apple Script. Donc, c'est l'ancien langage de script d'Apple. Ça date des années 90, hein, il me semble. Mmh. Et moi, c'est des scripts que j'ai écrits. La plupart datent de mes débuts à Mac G. Donc, du début des années 2010. Et ils fonctionnent tout aussi bien que le premier jour, quoi. C'est vrai qu'il y a un contraste comme ça qui est assez saisissant entre les deux. L'iPad, ça fait 14 ans, 14e année qu'on est. Et t'as l'impression qu'il y a plein de choses qui n'ont pas bougé depuis le premier jour, alors que ils veulent en faire quelque chose de plus que juste un appareil de consultation dans le canapé comme Steve Jobs avait présenté, mais ils n'ont pas vraiment les moyens d'y arriver, quoi.
Mais en parlant en automatisation, il y a une rumeur aussi qui voudrait que Siri soit capable de communiquer beaucoup plus avec les applications et qu'on puisse dicter à Siri des commandes très précises. Et je me demande si ça sera très utile. Je me vois mal dire à Siri, dans l'application mail, envoie un mail à nanana, et puis ensuite lance Spotify. Enfin, c'est l'interaction vocale avec Siri qui me freine un peu.
Je suis d'accord. Et je pense que c'est plus un signe qu'il n'y aura rien de ce côté-là, enfin, en tout cas pour moi, du côté des automatisations. Parce que on va voir ce qu'ils font. Alors, c'est intriguant, je veux voir ce qu'ils font exactement. Mais ça n'a pas l'air d'être le truc qui est destiné aux utilisateurs plus avancés. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire, qui a une idée de ce qu'il veut faire, mais qui ne sait pas comment le faire et qui peut lui demander à Siri. Mais je ne sais pas, qui vraiment va être intéressé par cette fonction et surtout qui va pouvoir l'utiliser au quotidien. Enfin, pour qui ça va être utile, quoi. Parce que je crois que la rumeur disait que ça serait que dans les applications d'Apple au départ. Ça se trouve, ça va être dans deux applications d'Apple. Enfin, on sent le truc. À mon avis, ça va être assez limité, ou alors pas très utile, on verra. Mais c'est sûr que c'est pas comme ça que moi je vais réutiliser un iPad. Ouais. C'est pas ça qui me manquait. Ouais.
Stéphane, logiquement, macOS va aussi avoir droit à un coup de frais, mais j'ai cru voir que les rumeurs étaient plutôt calmes à ce sujet.
Oui, alors on peut dire déjà que les nouveautés, macOS 15 aura des nouveautés partagées avec iOS et iPadOS, mais ça c'est devenu une habitude. Notamment, macOS pourrait avoir la toute nouvelle application Calculette. Et puis, concernant une nouveauté spécifique, enfin c'est pas vraiment spécifique non plus puisque donc il y aurait les réglages système améliorés enfin. Et puis pour les développeurs, comme j'en avais parlé un peu plus tôt, je pense que c'est peut-être la plus grosse nouveauté pour macOS, même si c'est limité à un public assez spécifique. Donc ça serait Xcode avec un équivalent de Copilot pour donner un bon coup de main aux développeurs lorsqu'ils développent des applications. Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est un système de gestion de fenêtres. Pas Stage Manager, mais quelque chose comme ce que fait Windows, où tu peux snapper les fenêtres dans les coins de l'écran assez facilement.
Comme Magnet.
Voilà, ouais. Ouais, okay. Il y a des utilitaires pour ça, effectivement. Mais si ça pouvait être intégré au système, ça serait encore mieux. Et puis un menu contextuel partagé qui serait plus pratique sans faire un clic supplémentaire, ça serait cool aussi, mais ça fait pas partie des rumeurs.
Nicolas, WatchOS a eu droit à une révision majeure l'année dernière. T'as profité de la sortie de la série 9 pour changer de montre. Un an après, c'est quoi ton bilan? Les rumeurs sur WatchOS 11 sont discrètes, ce qui est pas très étonnant vu qu'on a déjà eu un gros WatchOS 10.
Oui, s'ils mentionnent WatchOS 11 lundi, ça sera une surprise à mon avis. Ouais. En tout cas, si c'est le cas, on n'a rien vu venir, donc peut-être qu'il y a une autre grosse mise à jour et que les rumeurs n'en ont pas parlé, c'est toujours possible.
Oui,
Mais bon, si on devait faire la liste, on va voir sans doute, il y a Siri dessus, donc si Siri est améliorée, ça sera aussi sur la montre, ça c'est bien. Il y aura peut-être quelques autres nouveautés qui sont liées à l'IA encore, je ne sais pas, peut-être de la transcription aussi, ou des trucs comme ça, on peut imaginer quelques éléments. Mais bon, à part peut-être un ou deux cadrans, WatchOS 11, ça va être léger.
Ouais.
Ce qui n'est pas forcément gênant, parce que comme tu avais dit, WatchOS 10 l'an dernier avait pas mal fait évoluer l'interface et de manière assez fondamentale même. Donc ils ne peuvent pas changer tous les ans.
Oui,
ouais. Pour répondre à ton autre question, moi, je n'ai pas de reproche à faire à ma Series 9. Elle fonctionne très bien. Mm-hmm. C'est une excellente montre connectée. Alors avant, j'avais une Series 5, donc ça fait quelques générations d'écart. Du coup, il y a en soi pas mal de nouveautés intéressantes, même si, pour être honnête, si on fait le bilan, ça n'a pas tellement changé mon usage. Ouais. C'est vrai que c'est pas la plateforme, enfin, la montre de manière générale avec WatchOS et même le matériel, tout ça évolue finalement assez peu. Je ne sais pas si c'est un défaut, je ne sais pas si on peut dire qu'Apple devrait faire beaucoup plus. Bon, moi, dans mon usage, en tout cas dans mon quotidien, moi, ça me suffit ce qui est fait aujourd'hui, donc voilà.
Ok. Stéphane, est-ce qu'on attend du nouveau matériel ? L'année dernière, on a eu un nouveau MacBook Air 15 pouces, par exemple.
Ouais, alors cette année, a priori, il n'y aurait rien. Pourtant, si on regarde un peu les Mac, la gamme de Mac actuelle, on voit qu'il y a des Mac qui seraient de bons candidats à un renouvellement. Je pense au Mac Mini, au Mac Studio et au Mac Pro, ouais, qui ont toujours des puces M2. Mais ils pourraient faire l'impasse en fait sur les puces M3 cette année pour passer directement au M4. Alors en fin d'année au mieux, sûrement en début d'année prochaine. Pour les iPads, bah, le renouvellement il a eu lieu en bonne partie il y a quelques semaines. Et puis bah, les iPhone et les Apple Watch, c'est toujours à la rentrée. Donc après, du côté des accessoires, il y a des rumeurs de nouveaux AirPods, mais bon, ça serait aussi plus tard cette année. Donc a priori, pas de nouveaux appareils à la WWDC.
Ouais.
Néanmoins, l'événement pourrait être l'occasion de remettre en avant le Vision Pro en annonçant sa commercialisation dans d'autres pays, dont la France. Il y a eu des rumeurs autour de ça. Enfin, on a même eu des infos concordantes autour de ça. Donc ça pourrait être, le niveau matériel, voilà, le focus pourrait être mis sur le Vision Pro.
Ouais.
Et je pense qu'il y en a bien besoin parce que le lancement, après un lancement qui a suscité un peu d'engouement aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est vite retombé. Et pour que cet appareil qui coûte quand même assez cher, pour pas dire très cher, rencontre le succès, il faut vraiment qu'Apple mette le paquet là-dessus et en parle le plus possible. Ouais. Et donc là, c'est l'occasion ou jamais.
Nicolas, justement, toi, tu as passé 2 semaines dans le monde magique de l'informatique spatiale. Est-ce que tu as des doléances pour VisionOS 2 ou pour l'écosystème Apple en général même ?
En tout cas, dans VisionOS, c'est sûr qu'il y a encore du travail. Bon, déjà, il faudra qu'ils traduisent tout le système, qu'ils ajoutent le français partout. Ça, je pense que ça attendra même pas VisionOS 2, parce que comme le disait Stéphane à l'instant, on a eu des informations qui suggèrent qu'il devrait sortir en France sans doute courant juillet, donc ça sera encore VisionOS 1 à ce moment-là, mais voilà, ça devrait aller assez vite. Au-delà, alors là, on peut imaginer, enfin, la liste de choses à améliorer n'est pas difficile à trouver, que ce soit sur la gestion des fenêtres, le clavier virtuel, à l'heure actuelle, est vraiment horrible. Ça dépanne 2 minutes, mais même pas 2 minutes, que je raconte 30 secondes.
Je sais pas comment on peut faire mieux, parce que...
Ouais.
c'est
sûr.
C'est un sacré challenge.
Moi non plus. Tout à fait. Mais après, ça, c'est de manière d'ailleurs plus générale. La visée avec les yeux, qui est une fonction assez géniale, c'est très instinctif. Et ça marche dans certains cas. En gros, ça marche quand il ne faut pas être précis. Mais dès qu'il faut être précis, je trouve que ça ne marche plus du tout. Et c'est vrai que pendant mon usage, j'ai utilisé évidemment pour lancer des apps. Voilà, pour lancer des apps, c'est très bien. Pour les apps optimisées, ça va encore. Mais en fait, il y a un problème auquel on ne pense pas avant d'utiliser le Vision Pro, c'est que que ce soit avec une souris, une souris trackpad, peu importe, mais sur un Mac ou un ordinateur, ou que ce soit même avec les doigts sur un écran tactile, instinctivement, on vise la zone qu'on veut cliquer ou toucher, et après on passe à autre chose, avant même d'avoir fait le clic ou le touche, parce qu'on sait que voilà, notre doigt est lancé et ça va être fait. Bah, si vous faites ça avec VisionOS, ça ne marche pas, parce qu'en fait, au moment où vous tapotez les doigts, bah vous avez déjà regardé ailleurs, et en fait, vous touchez, vous activez un autre bouton. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu tout le temps, alors tout particulièrement avec le clavier virtuel, mais de manière générale, typiquement, je sais pas, dans Safari, par exemple, j'ai trouvé ça assez déplaisant à utiliser, Safari, à cause de ce manque de précision dans l'utilisation. Enfin, l'ergonomie, pour moi, là-dessus, il y a un truc qui... C'est bien pour certains usages, c'est bien pour mettre en pause une vidéo, ça c'est nickel, mais pour des choses plus compliquées, on atteint vite ses limites.
Sur le web, c'est sûrement le plus compliqué, oui, parce que les sites web ne sont pas du tout pensés pour une navigation. Comme ça, tu as souvent des petits liens à cliquer, et c'est galère de sélectionner le bon lien, et après, si tu veux sélectionner du texte, copier du texte, là, ça devient quasiment... C'est pas impossible, mais c'est très répartitif. Ouais.
Alors c'est vrai qu'ils ont, parmi les palliatifs, ce qu'ils proposent, c'est d'utiliser un trackpad, c'est tout. Il y a une rumeur qui envisage qu'on puisse utiliser l'Apple Pencil Pro dans VisionOS. Bon, ça, moi, perso, ça me branche pas du tout, je dessine pas, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a, quelque chose, sans doute, à trouver pour la partie plus informatique spatiale. C'est vrai que l'idée d'utiliser les yeux, c'est super en première approche, mais voilà, je sais pas si Vision OS 2 sera l'occasion de revenir là-dessus. Ça m'étonnerait, en fait, parce que c'est tellement fondamental au système et le système est tellement nouveau que je pense pas qu'ils aient déjà une autre idée, mais on verra. Le WWDC. Après, sur la liste d'améliorations, on pourrait parler des personnages qui sont pas... au-delà du système lui-même, moi, je dirais que l'axe d'amélioration qui me paraissait évident, c'est les aptiers, qui sont pas très nombreuses et pas terribles. Donc ça, ça tombe bien, le WWDC, c'est là, ils sont... Enfin, s'ils ont une chance de parler aux développeurs, c'est bien là. Donc j'espère qu'ils ont de quoi d'essayer de leur vendre, peut-être d'améliorer les API. Après, je sais pas, améliorer ce qu'ils peuvent faire pour les interfaces. Et sinon, au sein même d'Apple, il y a un axe quand même évident, c'est le contenu immersif. Parce que quand ils nous avaient lancé le Vision Pro, justement, il y a un an, le WWDC, ils avaient mis un gros focus là-dessus en disant, vous allez voir, c'est génial, le contenu immersif, vous êtes dedans, vous êtes immergé. Et c'est vrai, ça marche bien, mais il n'y en a pas. C'est vrai que pas beaucoup. Depuis, ils ont lancé avec, je sais pas, j'ai oublié de compter, mais même pas une dizaine de contenus. Et puis ils en ont rajouté. Et depuis, donc ça fait quand même quelques mois, ils en ont rajouté deux ou trois. Et c'est des vidéos qui sont très courtes en plus. Donc on fait vite le tour. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que moi, je m'étais dit, ils l'avaient même dit d'ailleurs, même, ils présentent ça comme des séries avec des saisons, des épisodes, des machins. On disait, toutes les semaines, tous les mois, tous les machins, il y en aura plein. Alors on sait pas, peut-être qu'ils attendent justement la WWDC, ils attendent peut-être le lancement dans d'autres pays. Ou alors, une autre hypothèse plus inquiétante, c'est qu'ils comptaient sur d'autres pour faire le contenu. Alors, il y a bien Marvel qui a fait une application interactive, What If. Mais s'ils comptent sur les développeurs pour viser un marché aussi petit, c'est Apple qui devrait le faire. Ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça n'a pas été le cas depuis le lancement. Et on va voir s'ils en reparlent à la WWDC aussi ou si ça passe sous silence.
Stéphane, même question, est-ce qu'il y a des nouveautés qu'Apple ne peut pas oublier pour toi, ou des nouveautés qui te feraient plaisir tout bêtement?
Alors il y a quelque chose que je répète tous les ans, c'est le multi-utilisateur sur iPad.
Ah oui.
Un jour tu l'auras.
Ça, je comprends pas non plus. Enfin, si, je comprends sûrement. Apple se dit, mais si on propose des multi-utilisateurs sur iPad, on va vendre moins d'iPad. Mais bon, comme ils en vendent déjà pas énormément.
Oui, ouais.
Qu'est-ce que ça leur coûte d'ajouter le multi-utilisateur sur iPad? Puis ils pourraient, pourquoi pas, réserver ça aux puces M1, M2, M3, comme ça, ceux qui ont des vieux iPads, ils vont se dire « Ah, tiens, moi je voudrais partager plus facilement mon iPad dans ma famille, donc si je passais sur un iPad plus récent, ça pourrait faire éventuellement un argument de vente.
Ouais. »
Non, à part ça, je suis très curieux de voir, et ça me ferait plaisir, en fait, que les nouveautés d'IA qui s'exécutent en local soit disponible pour un grand nombre d'appareils, pas seulement pour les iPhone 15 Pro, parce qu'en fait j'ai un peu peur que, comme Nicolas l'a dit, les nouveautés liées à l'IA sont souvent très demandeuses en puissance et aussi en RAM. Et là, en fait, en mémoire vive, les iPhones, c'est historique, ont assez peu de mémoire vive. Par exemple, j'ai regardé, l'iPhone 12 et l'iPhone 13 ont seulement 4 Go de RAM. Et il faut savoir que Google maintenant propose Gemini Nano, une version optimisée de son modèle de langage pour les smartphones, et Google dit que ça tourne seulement bien sur un smartphone qui a 12 Go de RAM, et à ce jour il n'y a aucun iPhone qui a 12 Go de RAM. Donc je me demande vraiment comment Apple va réussir à intégrer des modèles de langage dans ses iPhones. Et ça sera un des gros défis, parce que si pour avoir la moitié des nouveautés d'iOS 18, il te faut un iPhone 15 Pro, là ça va être une déception assez immense. Et c'est pour ça aussi qu'Apple parle en fait avec OpenAI et Google, c'est pour trouver une solution qui passe par les serveurs pour les fonctions qui sont les plus demandeuses en puissance.
Nicolas, le Vision Pro était présenté il y a un an. Le lancement était réussi pour ce produit? Tu penses qu'on aura du neuf par rapport à la sortie en France pendant la WWDC?
Alors, je sais pas. En tout cas, les rumeurs en parlent, donc faut espérer que oui, pour nous. Le lancement, on en a déjà un peu parlé, c'était quand même compliqué. Alors je me demande rétrospectivement si Apple s'y attendait pas finalement, parce que faut quand même rappeler qu'ils l'ont sorti sans un keynote. On en parlait au tout début là, des keynotes petit format comme il y a eu pour les iPads. Donc typiquement, c'était une demi-heure. Pareil pour les Mac M3, c'était même plus court les Mac M3.
À peu près une demi-heure.
Ouais. Donc, ils n'ont même pas fait ça. Et alors, ce qui moi, me frappe, enfin, du point de vue maintenant, là, avant qu'on sache qui présente, c'est que les iPads, ils ont fait un keynote, ils en ont fait des caisses. Tim Cook a dit que c'était le plus grand jour pour l'iPad depuis la présentation, etc. Alors que, honnêtement, c'est pas génial. Enfin, je veux dire, ils sont très bien, ces iPads, mais bon, voilà, ils sont plus fins, plus puissants, super. Il n'y a rien eu d'exceptionnel. Et quand même, ils ont fait un keynote, alors que le Vision Pro, qui est censé être l'informatique du futur, le pari sur l'avenir, etc., bah, rien, un communiqué de presse.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai que c'est assez bizarre. Et donc, bon, cette communication est étrange depuis le début. Ils ont communiqué quand même, notamment à plusieurs reprises depuis la sortie, mais avec un angle pas forcément... Enfin, je sais pas si c'était attendu ou pas, mais ils parlaient plutôt du succès de l'appareil en entreprise. Donc ça, oui, on a eu plusieurs fois des exemples dans des hôpitaux, machin, des chirurgiens, dans des entreprises pour de la formation, pour ci, pour ça, voilà. On a des exemples concrets, mais pas tellement grand public. Bah, pour une bonne raison, a priori, hein, c'est que les ventes sont pas bonnes du tout. D'après ce qu'on sait, même quand on se base sur les estimations d'origine qui étaient déjà pas très élevées, notamment parce que la production des écrans limitait la production totale, de toute manière, c'est pas un appareil qui allait se vendre beaucoup, surtout à 3 500 $ hors taxes en prix de base, c'est évident. Cela dit, voilà, malgré ces prévisions qui étaient déjà pas très élevées, moi j'ai quand même l'impression que c'est encore pire que prévu. Et quelque part, j'ai pu me rendre compte, justement, comme tu as dit, j'ai eu le casque pendant 2 semaines, bien après vous, enfin voilà, vous l'aviez testé à Lyon, etc. Après, je l'avais reçu. Et bah, moi, j'étais assez curieux, je voulais tester ce système, voir l'informatique spatiale, comment ça marchait. Enfin, c'est pas tous les jours quand même qu'on a un tout nouveau système d'exploitation d'Apple, et pas comme iPadOS qui est juste iOS vaguement renommé. Là, pour le coup, quand même, c'est voilà, il y a des nouveaux paradigmes d'interface, il y a plein de choses intéressantes à tester. Et j'avais envie d'en parler, etc. Mais c'est vrai que tous les articles que j'ai faits, j'ai pu me rendre compte, bah, il n'y a pas d'intérêt de la part des lecteurs. C'est pas illogique, encore une fois, il est cher, il n'est pas disponible chez nous. Mais quand même, moi j'avais l'impression en écrivant, c'est assez terrible que cette informatique spatiale qu'Apple a lancée en grande pompe, bah, elle est déjà morte. C'est, voilà, c'est fini, ils sont passés à l'IA et bon. Alors on verra. ce qu'on sait, ce qui n'est pas très rassurant, je trouve, c'est qu'on nous parle de... Parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure de VisionOS et des problèmes qu'il y avait, mais il y a quand même des problèmes matériels. Faut le rappeler. Je pense qu'un des gros problèmes de ce casque, c'est son poids. Donc il faudrait l'alléger beaucoup. L'autonomie, c'est vraiment pas terrible aussi. On doit se trimballer la batterie, etc. C'est vrai que ça descend très vite quand on est sur batterie.
Ouais.
Même les écrans qui sont géniaux par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, quand on compare, bah, par exemple, je l'ai beaucoup utilisé moi pour projeter l'écran de mon Mac. Et on est très loin de la qualité. Alors, j'ai un studio display, donc c'est un écran 5K. Ça n'a rien à voir, le Vision Pro encore. Hein. On est encore très loin de ça. Donc voilà, il y a plein de points à améliorer, qui sont d'ailleurs un peu contradictoires, parce que si on veut un meilleur écran, on veut avoir un meilleur écran, une meilleure autonomie, et en même temps on veut réduire son prix, c'est sûr que c'est compliqué. La technologie ne doit pas être encore en rendez-vous. Donc on parle maintenant d'un renouvellement du Vision Pro fin 2026, voire 2027 selon les rumeurs. Donc il faut imaginer, il est sorti début 2024. Ça fait quand même plusieurs années avec ce matériel-là.
Ouais, même niveau puce, ouais, c'est vrai qu'on a déjà la puce M4, le casque est toujours à la M2, il n'est pas encore sorti en France. Ouais, ça...
Après, je ne pense pas que ça ce soit le point bloquant, mais tu as raison.
Oui, bien sûr. Mais ouais.
Quand, si on doit attendre jusqu'à 2027, ça veut dire qu'on va se taper une puce M2 pendant tout ce temps. Si Apple, ils n'ont pas l'habitude de changer le prix, donc le casque va sans doute rester à 3 500 $ prix d'appel hors taxe dans le monde entier. Voilà.
Alors, ça s'est vu quand même des fois, c'est très rare qu'ils changent le prix, mais par exemple, je me souviens du HomePod. Le HomePod, le succès n'était pas vraiment au rendez-vous. Ils ont baissé le prix.
C'est vrai.
Alors, je ne sais plus combien de temps après la sortie, mais ils avaient ajusté le prix.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils resteront sur le prix qu'ils veulent garder au bout, quelle que soit la durée entre deux renouvellements. Quoi. Donc, même s'ils le baissent un peu, de toute manière, ils ne vont pas le baisser non plus de 2 500 $. Quoi. Donc, mais c'est possible, oui, c'est possible que ça passe, mettons, à 2 999 $, un truc comme ça. Voilà, c'est pas impossible. Mais malgré tout, ça fera quand même cher pour le produit tel qu'il est aujourd'hui.
Ouais.
Et c'est vrai que, en fait, ce qui est difficile, je pense, c'est qu'il n'y a pas tellement d'action évidente. Il n'y a rien de simple à faire parce que la technologie n'est pas au rendez-vous, parce que le prix, de toute manière, sera trop élevé. Le mieux qu'ils peuvent faire à WWDC, c'est d'avoir un Vision OS avec des nouveautés importantes et surtout essayer de relancer l'intérêt des développeurs. Mais on a eu des retours justement de développeurs qui ont joué le jeu, qui ont fait des apps, qui les ont optimisés, etc. Enfin, les ventes, c'est ridicule, quoi. Ça se compte en dizaines d'unités pour en tout. Voilà, il n'y a pas d'intérêt, quoi, vraiment. Donc, pour un développeur d'investir autant de temps et d'argent là-dedans, bah, voilà, c'est compliqué pour l'instant.
Oui. Eh bien, merci à vous deux pour ce débrief. On va maintenant patiemment attendre les derniers jours avant la WWDC, dont, je le rappelle, le keynote inaugural aura lieu le lundi 10 juin à 19h. Vous pourrez évidemment suivre tout ça en direct avec nous sur notre site lekeynote.fr et avec la communauté sur notre serveur Discord. Stéphane, à bientôt.
À bientôt, salut.
Nicolas, à la prochaine.
À la prochaine, à lundi.
Et nous, on se dit à plus tard pour un nouveau podcast. Ciao, ciao, bye bye.